Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le mari, le vicomte et le jardinier. C'est l'affaire Bissonnet, du nom de cette pharmacienne à la retraite, retrouvée morte le 11 mars 2008 dans le hall d'entrée de sa grande maison, dans la banlieue de Montpellier. Cette mère de famille bourgeoise, respectée, apparemment sans histoire, est abattue de 2 balles de fusil de chasse. Une fois n'est pas coutume, les enquêteurs croulent presque sous l'épreuve. L'agresseur s'est blessé à la main en tirant les coups de feu. Il est identifié moins de 48 heures après le meurtre et passe aux aveux dans la foulée. Voilà. Une victime, un crime, un coupable, a priori pas de mystère. Et pourtant, cette affaire va se compliquer au moment même où elle semble se résoudre. Car le tueur finit par impliquer un aristocrate octogénaire local ainsi que le mari de la victime. Notre invité aujourd'hui, François Barrère, journaliste spécialiste des questions judiciaires au Midi Libre à Montpellier. Il a couvert cette affaire Bissonnet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proutot, coordinateur Franck Cognard, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Si l'on compare souvent les tribunaux à des théâtres, jamais le rapprochement n'aura été aussi justifié que dans cette affaire. Tant les trois protagonistes impliqués dans ce crime ressemblent à des personnages dignes des meilleures pièces de boulevard. Ou des pires. Dans le rôle du tueur, voici Méziane Belkacem, un immigré de 51 ans qui a grandi en Algérie, élevé par ses grands-parents. Il a 20 ans quand il arrive en France. Il ne sait ni lire ni écrire et vit de petits boulots, de temps en temps d'ailleurs, chez les Bissonnet. Son vrai métier, c'est laveur d'huîtres, mais parce qu'il a débroussaillé une ou deux fois le jardin du couple, la presse l'appelle le jardinier. Pour jouer le complice, entre en scène Amaury Darcourt. Cet aristocrate atypique de 83 ans sera le vicomte de notre histoire. Ça tombe bien, Darcourt l'est réellement vicomte. Ce personnage improbable a été résistant, chercheur d'or, aventurier en Afrique, pour finir par organiser les chasses présidentielles de Monsieur Giscard d'Estaing. Un original. Enfin, troisième personnage de cette pièce absurde et tragique, le meneur, le cerveau d'opération. C'est le mari de la victime, Jean-Michel Bissonnet. Parti de rien, cet homme d'affaires a réussi dans l'immobilier, et il compte désormais parmi le gotha de la bourgeoisie montpelliéraine. Il est riche, ne s'en cache pas, et profite de sa retraite avec sa femme et ses enfants dont il est proche. Voilà pour le casting, un jardinier crédule et simple, inconnu de la justice, qui reconnaît avoir tué une femme sur les ordres du mari de celle-ci, un vicomte octogénaire étrange et fantasque, qui admet avoir aidé le jardinier à se débarrasser de l'arme du crime, et qui confirme l'implication du mari. Et puis le dit mari, qui lui nie tout, et qui ne sait pas expliquer pourquoi on l'accuse. Parce que ces trois hommes forment une association invraisemblable, ils en éclipsent presque le personnage central de notre histoire. La victime, bien sûr, Bernadette Bissonnet, dont le meurtre, pourtant, bouleverse toute une région. Nous sommes le 11 mars 2008, et l'information est diffusée sur France Inter.
11 mars 2008, le corps de Bernadette Bissonnet est découvert par son mari dans le hall de leur maison de Castelnau-le-Lez. Il est près de 22 heures. La femme a été victime de 2 coups de feu, 2 gerbes de plomb qui ont déclenché une importante hémorragie et entraîné sa mort. Jean-Michel Bissonnet conteste toute participation aux faits. Les investigations continuent.
Castelnau-le-Lez, banlieue résidentielle cossue des hauteurs de Montpellier. La plus belle maison du quartier, c'est celle des Bissonnet. Elle est grande, très grande. Près de 25 pièces, avec une salle de sport, une piscine intérieure, 5 hectares de jardin, le luxe. Et cette villa, c'est la fierté de Jean-Michel Bissonnet. Parce qu'elle représente le cadre idéal pour la retraite du couple, parce que leurs 2 grands-enfants y ont vécu, et surtout, parce qu'elle traduit leur réussite. Qui n'est pas que financière, non. Les Bissonnet forment une famille, un couple heureux. Tous leurs amis le disent d'ailleurs. Oh, Bernadette et Jean-Michel, qu'est-ce qu'ils sont amoureux! Et après 30 ans de mariage, ça n'est pas rien, c'est même un exploit. D'ailleurs, dans la maison ou sur les réseaux sociaux, beaucoup de photos traduisent ce bonheur conjugal. On peut voir le couple lors de ses nombreux voyages, une passion commune, et on les voit tous les deux toujours serrés l'un contre l'autre, le bras de Bernadette enlaçant souvent les épaules de son mari. Pour leurs deux fils, il n'y a aucun doute. Leurs parents étaient heureux ensemble. D'où leur sidération quand ils ont appris le drame. Comme le confie l'un des enfants, Bissonnet, dans l'émission « Faites entrer l'accusé ».
Pour nous, ça a été un choc parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. On n'a pas compris. Et les justifications qui nous ont été données ne nous ont pas convaincus. On s'est juste dit mais que mon père n'avait pas envie de faire tuer ma mère. Enfin, c'est tout, c'était la base. On a connu nos parents pendant des années et tout allait bien.
Mais oui, sur le papier en tout cas, les Bissonnet ont tout pour eux. Une famille unie, un couple amoureux, de l'argent. Et c'est bien dans ce cadre idyllique que le quotidien de Jean-Michel Bissonnet se déroule. Un quotidien fait de petites habitudes, dont certaines sont immuables, comme les réunions hebdomadaires du Rotary. Jean-Michel est le trésorier de ce club select réservé à la bourgeoisie locale. Alors, ce mardi 11 mars 2008, comme tous les mardis, il se rend à Montpellier pour dîner avec les autres membres de l'association. Il quitte sa villa aux alentours de 19h30-19h40. Au bout de quelques minutes de route, Jean-Michel se rappelle qu'il a emmené son chien, Pete. Il téléphone à Bernadette pour la prévenir. « Chérie, ne t'inquiète pas, si tu ne vois pas le chien, il est avec moi. » Et il lui souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure. La réunion se termine 2 heures plus tard. Jean-Michel reprend le volant. Il est environ 22h quand il arrive à la villa. Il se gare, et comme d'habitude, Pete, le chien, sort en courant quand son maître ouvre la portière. Mais là, fait inhabituel, il se couche devant la porte d'entrée de la maison, en gémissant. Jean-Michel fronce les sourcils, appuie sur la poignée de la porte et entre dans la villa. Et là, c'est un choc. Il découvre le corps ensanglanté de sa femme, gisant sans vie sur le sol de l'entrée. Il contacte les secours. L'officier qui prend l'appel entend des pleurs. Et Monsieur Bissonnet crie « Mais pourquoi ? Pourquoi toi ? C'est affreux ! C'est affreux ! On me l'a tué !» Quand les gendarmes arrivent sur place, ils découvrent un homme dévasté. Pour faire entrer l'accusé, un officier raconte ses premiers échanges avec l'époux.
Je lui pose les premières informations pour lui demander effectivement si il avait une idée de la personne qui aurait pu faire ça, si ça avait des ennemis ou autre. À aucun moment, il nous désigne de personne. Non, il ne sait pas du tout. Il s'aperçoit que le véhicule 4x4 de son épouse, qui est un RAV4, a été dérobé. Et c'est à ce moment-là qu'on fait déclencher en fait le plan épervier pour faire rechercher ce véhicule-là. Lui, il pense effectivement à un cambriolage qui s'est mal déroulé.
Pourquoi pas ? Après tout, il s'agit d'un quartier bourgeois et plutôt attractif pour les voleurs. Et puis, les Bissonnet se sont déjà fait cambrioler quelques années auparavant. Mais là, quelque chose sonne faux. D'abord, rien ne semble avoir été dérobé. Même les 18 000 euros en espèces placés dans le tiroir d'un meuble du salon sont encore là. Au grand bonheur de Jean-Michel d'ailleurs, qui sèche soudainement ses larmes quand il la prend. Ensuite, la scène de crime est quelque peu désordonnée. On retrouve du sang sur la rambarde de l'escalier et dans la salle de bain de l'étage. Mais aucune pièce n'a été fouillée et rien n'a été volé. Le coupable n'a même pas cru bon de ramasser les douilles issues du fusil avec lequel il a tué Bernadette. Un ongle de pouce est retrouvé dans le salon, ainsi que plusieurs petits bouts de chair éparpillés. L'assassin aurait voulu signer son crime qu'il n'aurait pas fait mieux. Et puis, une partie du sang autour de la victime a été essuyée à l'aide d'une serpillière. Par le mari, soi-disant parce que le chien pataugeait dedans, alors même qu'aucune trace de sang n'est retrouvée sous les pattes de l'animal. Bref, une construction, un récit qui ne semble avoir aucun sens. En tout cas pour le moment. Quelques jours après le meurtre, Jean-Michel Bissonnet est convoqué par les gendarmes. Et là, l'époux effondré, éperdu et silencieux, laisse place à un homme décidé, très sûr de lui. Nous sommes le 12 mars, et Jean-Michel Bissonnet n'a qu'un nom à la bouche. Méziane Belkacem, l'homme qui vient de temps en temps laver les carreaux à la villa et faire le jardin. Il se trouve qu'il est passé le voir le jour de la mort de Bernadette, il s'en souvient maintenant. Et Belkacem est venu lui demander 5000 euros, et il a refusé de les lui prêter. Alors il en est sûr, l'assassin de sa femme, c'est lui. Ouais, étrange. charge tout de même, car s'il était vraiment certain de la culpabilité du jardinier, pourquoi n'a-t-il rien dit aux enquêteurs le soir même du meurtre ? Donc, les enquêteurs convoquent Belkacem. Quelques heures à peine après être entré dans la gendarmerie, Belkacem avoue. Et ses confessions sont reprises sur France 3 Midi-Atlantique.
Le jardinier en garde à vue depuis jeudi matin a avoué, c'est bien lui qui a tué Elisabeth Bissonnet à son domicile de Castelnau-le-Lez le 11 mars dernier. Ce mardi soir, l'homme d'une cinquantaine d'années s'est rendu chez la pharmacienne à la retraite et l'a abattu de deux coups de fusil, à bout portant, dans le hall de sa villa. Elle y était seule. Ce familier de la maison savait que l'époux de la victime serait au Rotary Club ce soir-là.
Si le jardinier avoue, c'est parce qu'un élément aussi invraisemblable qu'imparable le lie au meurtre. Et ça, les enquêteurs le réalisent à l'instant même où Belkacem passe la porte de la gendarmerie. Quand il entre dans la salle d'interrogatoire, le jardinier laveur de vitres porte un grand manteau avec des manches longues, très longues, qui cachent complètement ses mains. Et alors qu'il fait plutôt bon dans la pièce, l'homme ne se découvre pas. Intrigué, ayant en tête l'ongle retrouvé sur la scène de crime, l'un des gendarmes décide d'augmenter le thermostat. Et la température grimpe. Alors le jardinier transpire à grosses gouttes. Les enquêteurs insistent. Belkacem finit par se découvrir et laisse alors apparaître un énorme bandage ensanglanté au niveau de sa main droite. De son pouce, plus exactement. Et il avoue dans la minute, racontant le déroulé de la soirée avec force détail. Il est 23h quand il arrive devant la maison des Bissonnet. Il va chercher le fusil de chasse. Il sait très bien que celui-ci est entreposé dans le garage de la famille. Il cache l'arme sous sa veste et sort de la porte. Bernadette lui ouvre et l'homme qui était venu travailler dans la villa l'après-midi même lui explique avoir oublié son téléphone dans une salle de bain du premier étage. Elle l'invite à entrer pour qu'il aille le récupérer le plus naturellement du monde. Et une fois à l'étage, Belkacem prend une grande respiration. Peut-être même qu'il jette un dernier coup d'œil à son reflet dans le miroir. C'est l'instant d'avant. Et il peut encore changer d'avis. Mais non. Alors il redescend l'escalier, sort son fusil et tire sur Bernadette Bissonnet. Une première balle atteint l'épaule et la plaque au sol. La seconde touche le cœur, tue la victime et emporte un bout du doigt du tireur. Méziane est hagard, horrifié par ce qu'il vient de faire. Parce que on n'a pas affaire à ces spécialistes. La main en sang. Il s'enfuit en prenant les clés de la voiture de la victime, qu'il garde, c'est étrange, à quelques rues de la villa. Et il laisse le fusil dans le véhicule et s'enfuit. Quand les enquêteurs lui demandent « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Il répond « C'est Jean-Michel Bissonnet qui me l'a demandé. »
Like the molar and the drill, flesh is weak, but darling, we know that the ego's weaker still. I've been hung, drawn and quartered, slowly slaughtered like a goat. By the tongue of a woman who just couldn't let it go. So be careful, boy. spoken and hearts stay broken from that moment on.
France Inter, affaires sensibles.
France Inter.
Le temps d'un week-end, ce qui pouvait être vu comme le geste irréfléchi d'un employé en colère, a pris la tournure d'un crime de sang-froid. Le mari de la pharmacienne est donc soupçonné d'avoir engagé son jardinier pour le débarrasser de sa femme, selon un scénario très précis et pourtant loin d'être parfait. Le veuf aurait tout organisé. Il fournit l'arme, les clés de son 4x4 et indique à son tueur de laisser tout ça à deux rues de la villa après le meurtre. Y a-t-il une preuve, un témoin ? Le procureur adjoint a confirmé qu'il existe des éléments à charge qu'il ne peut pas révéler pour l'instant, de l'instruction.
Affaire Bissonnet, acte 2. Jean-Michel Bissonnet serait le commanditaire du meurtre de sa femme. Selon le jardinier, devenu tueur à gages donc, il lui a promis 30 000 euros en échange de la mort de Bernadette. Et si Jean-Michel nie, s'offusque, hurle au scandale, les gendarmes, eux, prennent au sérieux les déclarations du jardinier. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, Belkacem n'a aucun intérêt à mentir. Ses déclarations le font passer d'un meurtrier à un assassin. Crime plus sérieux encore pour la justice, puisqu'il implique la préméditation. Ensuite, le jardinier fait mention d'un détail, une anecdote presque insignifiante. Il a une peur panique des chiens. Or, les Bissonnets en ont un, le brave Pitt. Alors, comment a-t-il pu se balader dans la villa le soir du meurtre? Parce que Jean-Michel avait prévenu qu'il emmènerait le chien avec lui à sa réunion du Rotary Club, souvenez-vous. Il a même appelé sa femme pour la prévenir. Et ça, il n'y a que Bissonnet et les gendarmes qui le savent. Et puis, la participation du mari explique aussi comment Belkacem s'est retrouvé en possession de la télécommande pour ouvrir le garage et récupérer l'arme. Bien, maintenant... Pourquoi Belkacem a-t-il accepté la proposition de son patron? Comment cet homme modeste, simple, qui n'a jamais eu affaire à la justice, s'est-il laissé embrigader dans une histoire pareille? Christian Binaire, spécialiste police-justice de France Inter, résume ce que l'on sait de leur relation.
Un homme sous influence. Belkacem, fils de harki, travailleur précaire, avait trouvé chez le notable Bissonnet le seul ami qu'il ait jamais eu, dit-il. Bissonnet qui l'a beaucoup aidé, alors qu'à l'époque, il se retrouvait à la rue, en pleine rupture avec sa femme, qui l'avait mise à la porte, virée et privée de ses 4 enfants. Bissonnet, un pied noir, originaire d'Oran, c'était un peu le père qu'il n'avait pas eu, lui. Ils se tutoyaient, prenaient ensemble le café le matin lorsqu'il arrivait, parlaient de l'Algérie avant qu'il aille laver les vitres ou tailler les rosiers de la propriété. Et selon un psychiatre, on peut se poser la question de son réel libre arbitre lorsque son seul ami, dit-il, lui aurait demandé de l'aider à éliminer sa femme pour prix de sa reconnaissance et pour 30 000 euros tout de même.
30 000 euros que Belkacem ne touchera jamais. Mais peut-être que les 18 000 retrouvés en liquide dans une commode du salon lui étaient destinés. Puisque selon le plan du mari de la victime, le jardinier devait brouiller les pistes des enquêteurs en faisant passer l'assassinat pour un cambriolage. Exactement l'histoire que Bissonnet a racontée aux gendarmes le soir du meurtre. Ça fait beaucoup. Et fort logiquement, le 23 mars 2008... soit 12 jours après le drame, le jardinier et son employeur sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat et placés en détention provisoire. Mais pour les proches du si respectable Bissonnet, la place de Jean-Michel n'est pas en prison. En tout cas, pas avant le procès. Alors quand le juge refuse les multiples demandes de remise en liberté provisoire, le clan familial décide d'organiser un sondage. Oui, vous avez bien entendu. Un sondage auprès des Montpelliérains pour savoir ce qu'ils pensent de l'incarcération de Jean-Michel. L'idée de tous ses soutiens est de prouver que, contrairement à ce que dit l'institution judiciaire, une libération provisoire ne représenterait pas une menace à l'ordre public. Du jamais vu. Nos confrères de RTL reprennent l'information.
Sur 500 personnes interrogées sur Montpellier, plus de la moitié n'aurait rien trouvé à redire à la libération de notre père, explique Marc Bissonnet pour justifier ce sondage. C'est notre réponse face à une justice aveugle et sourde qui nous brandit depuis 18 mois un risque de trouble dans l'opinion, un trouble à l'ordre public s'il était libéré, notre manière à nous aujourd'hui de nous faire entendre.
On n'a pas du tout essayé de faire pression. Le problème, c'est que nous, on nous oppose quelque chose qui est trouble à l'ordre public. Bon, en tout cas, on nous dit ça choque l'ordre public. Et nous, on allait voir les habitants de Montpellier. Les gens disent, nous ne sommes pas choqués par la possible mise en libération de Jean-Michel Bissonnet. Les gens parlent de nous, la preuve, on parle de notre cas, en espérant que ça remonte jusqu'à la ministre. Donc c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. On rentre en guerre, quoi.
Interrogé par les médias, le procureur de Montpellier, Brice Robin, est furieux et dit « On est en plein délire. On n'est pas en train de délire quelqu'un. C'est n'importe quoi. La défense a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a aussi le droit d'être de mauvaise foi. » Et il ajoute que si la justice ressemble désormais à ça, alors on peut s'inquiéter pour notre démocratie. Même s'ils ont deux individus en détention, les enquêteurs ont encore du pain sur la planche. Alors il sort des grands moyens et organise une reconstitution du crime. Un événement suivi par France 3.
Dès 19h, les gendarmes ont commencé à prendre position autour de la villa de Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Leur objectif, sécuriser les lieux pour préparer ce nouvel acte de justice qu'est une reconstitution. Gendarmes, les enquêteurs de la brigade de recherche, médecins légistes, l'expert en balistique, magistrats et avocats, le but est de vérifier la cohérence des actes censés avoir été commis avec les déclarations des accusés. La reconstitution a duré près de 5 heures, avis de l'avocat du mari de la victime, commanditaire présumé du meurtre.
Ce qu'on peut dire de manière certaine, s'il y en a un seul qui n'évolue jamais dans sa version, c'est bien mon client qui reste constant dans sa dénégation de toute responsabilité dans ce drame et qui clame haut et fort son innocence.
Et la reconstitution ne permet pas d'éclaircir toutes les zones d'ombre de cette affaire. D'abord, l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. Belkacem dit avoir laissé le fusil de chasse dans la voiture de la victime après l'avoir déplacé à quelques rues de la villa des Bissonnet. Mais si les gendarmes ont bien trouvé le véhicule, aucun fusil n'était à l'intérieur. Bon, le jardinier pourrait mentir, mais pourquoi ? Et la question tracasse les enquêteurs. Car il leur manque une autre pièce du puzzle Bissonnet, le mobile. Oui, pourquoi Jean-Michel aurait-il souhaité la mort de sa femme ? Tous les témoignages des gens qui les connaissent sont unanimes et on l'a dit, ils formaient un couple uni, amoureux. Alors, une histoire d'argent ? Les Bissonnet étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, c'est donc les enfants qui héritent de Bernadette, pas Jean-Michel. Et puis, c'est un homme d'affaires qui réussit. Il n'a pas besoin de l'argent de sa femme. Adultère, pas plus. L'enquête ne révèle ni amant ni maîtresse pour l'un ou l'autre membre du couple. Alors, sans arme du crime et sans mobile, l'équation se complique. D'autant que ce n'est pas fini, car un troisième personnage fait irruption dans cette histoire, venant compléter l'improbable casting de cette tragédie et initier l'acte final, le dénouement de cette affaire. Cet homme s'appelle Amaury d'Harcourt, c'est un aristocrate de 82 ans. Christian Binner le présente sur France Inter.
Très vieille noblesse et très vieille accusée. Que vient faire dans cette histoire le vicomte Amaury d'Harcourt ? Il est l'homme qui a caché l'arme du crime. Complicité d'assassinat, par amitié, dit-il. Amitié pour Jean-Michel Bissonnet, ami de 40 ans, le fils qu'il n'a pas eu, avec qui il partage la passion de la chasse. Il confie, ça faisait bien 4 ans qu'il me parlait de supprimer sa femme. Je lui avais suggéré, pourquoi ne pas divorcer ? Mais il aurait alors perdu sa maison, à laquelle il tient tant. Et puis je n'ai jamais vraiment pensé qu'il le ferait. Résistant à 18 ans, puis l'Afrique, où il a été tour à tour chercheur d'or, créateur d'une briqueterie, fondateur d'une maison de disques. Il devient conseiller des chasses présidentielles de Chambord pour Giscard, toujours la chasse. Et puis les femmes. La première de ses trois épouses affirme d'ailleurs, je n'ai été pour lui qu'un trophée de chasse.
Et voilà ce que révèle ensuite Amaury d'Harcourt à l'enquêtrice qui vient l'interroger une deuxième fois sur les Bissonnet et sur son emploi du temps le jour de la mort de Bernadette. Ce 11 mars 2008, alors que sa femme est à son cours de gym hebdomadaire, Jean-Michel donne rendez-vous dans sa villa à son mentor et à son élève, Belkacem. Il leur expose alors son plan machiavélique. Parce qu'il sait qu'il sera le premier suspecté, le mari se forge un alibi incontestable, la réunion au Rotary. Puis il charge le jardinier de tuer Bernadette. Quant au vicomte, il devra récupérer l'arme laissée par Belkacem dans la voiture et la faire disparaître. Un plan parfait, mais complètement bancal en réalité. Si l'on prend en compte que le tueur n'est pas un tueur, mais un homme à tout faire, qui n'a aucune expérience ni compétence en matière de meurtre. Ce sera d'ailleurs un argument de la défense de Bissonnet, qui dit « mais l'homme est trop intelligent pour imaginer un plan aussi mauvais ». Peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que le témoignage d'Harcourt corrobore la version du jardinier et que les gendarmes retrouvent l'arme du crime exactement à l'endroit où le vicomte a indiqué l'avoir jetée dans la rivière du Lez. D'Harcourt est inculpé pour complicité d'assassinat et l'enquête se termine. Le dernier acte de notre affaire peut donc commencer avec l'ouverture du procès le lundi 27 septembre 2010 devant la cour d'assises de l'Hérault. Quand vient le tour de Jean-Michel de passer à la barre, c'est peu dire que l'ambiance change. La personnalité de cet accusé-là est asphyxiante. Compte rendu d'audience par Christian Binner.
Bissonnet a la parole et on entre dans un troisième monde. Après le ci-devant vicomte, issu de la plus ancienne branche aristocratique de France, après le jardinier kabyle illettré, fils de Harki, nous voilà avec les notables de province, Rotary Club du comité de soutien en tête. Que des gens bien moralement, précise le président du Rotary local, notaire, des chefs d'entreprise, des décideurs, pas des employés. Donc on se refuse à croire que Bissonnet, parvenu fortuné, ait fait assassiner Bernadette la pharmacienne, sa femme. Et lui-même, qui raconte comment il a fait fortune dans la location de bureaux. « J'ai créé le Bureau Club, monsieur le Président. 28 centres d'affaires, Paris Place Vendôme, l'Arche de la Défense, Montpellier. Je les ai revendus à des fonds de pension américains. » Lui-même, Bissonnet, n'oublie pas de réprimer un sanglot à chaque fois qu'il évoque Bernadette, une femme merveilleuse, son seul amour, dit-il, avec laquelle il a eu une vie de rêve. Le Rotary Club confirme, merveilleuse Bernadette, et vraiment, vraiment, c'était le couple idéal.
Le tempérament du mari, grandiloquent, vindicatif, tranche avec ceux du jardinier et du vicomte, qui se présentent, eux, calmes, posés. Ils assument, quand Bissonnet, lui, nie farouchement. À tort ou à raison, peut-être, mais dans tous les cas, cette posture le dessert. Ses avocats essayent tant bien que mal de contenir leurs clients et de maintenir une ligne de défense claire qui repose fondamentalement sur un élément, l'absence de mobile. Car c'est bien là le talon d'Achille de l'accusation. Non, les enquêteurs ne sont pas parvenus à fournir une explication claire, tangible de ce qui aurait pu motiver Jean-Michel à tuer sa femme. Certes, Belkacem et Harcourt racontent que Bissonnet leur a dit vouloir en finir avec Bernadette. Mais pourquoi ? Eux non plus n'ont pas vraiment d'explication à donner. C'est alors qu'un coup de théâtre intervient. Le 4 octobre 2010, à la surprise générale, l'avocat général demande la suspension du procès. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il vient d'obtenir la preuve que Jean-Michel Bissonnet a tenté de payer l'un de ses compagnons de cellule afin que ce dernier fournisse un faux témoignage accablant contre Amaury d'Harcourt. Le détenu devait raconter au juge que le vicomte l'avait contacté en 2005, soit 3 ans avant les faits, pour lui demander de tuer Bernadette. Bissonnet lui a même fourni 15 pages de documents détaillés sur le vieil homme, son caractère, à quoi ressemble sa maison et tant d'autres détails, afin de rendre sa déposition plus crédible. Et cette annonce fait l'effet d'une bombe au tribunal. Jean-Robert Funk, l'avocat du frère de Bernadette, convaincu de la culpabilité de Jean-Michel, ne mâche pas ses mots au micro de France Inter.
L'homme est dans un déni, point de non-retour sur lequel il ne peut pas revenir. À la limite, ça donne, si vous voulez, un espace de, une sorte de sursis pour Bissonnet avant d'être scellé sous son sort. Après, ça lui appartiendra de décider ce qu'il fera de ce qui lui reste de vie. Mais je n'ai pas besoin de ce coup de théâtre pour vous dire que Bissonnet est le seul coupable possible, le seul commanditaire possible. Et il continue à manipuler tout le monde. Mais qu'il manipule le défilé des Rotariens qu'on a vu, c'est pas grave. Mais qu'il instrumentalise et qu'il continue à piéger son propre beau-père, qu'il continue à piéger surtout ses enfants, et qu'il continue, si vous voulez, à instrumentaliser la mémoire de sa femme et le cercueil de sa femme, ça, ce mec, excusez-moi, c'est un authentique salopard.
En janvier 2011, 3 mois après ce coup de tonnerre, le procès reprend. Et si Bissonnet n'avait déjà pas bonne presse avant la suspension des audiences, eu égard à son comportement dans le prétoire, sa tentative de faux témoignage l'enfonce définitivement auprès des jurés. Pourtant, l'homme clame toujours son innocence et il n'a rien perdu de sa hargne. En témoigne cet enregistrement réalisé par nos collègues de France 3 dans les couloirs du tribunal au moment de la réouverture du procès. On y entend clairement Bissonnet et surtout ce qu'il dit.
Je voudrais que l'on arrête de m'accuser de cette façon. C'est absolument abject. C'est abject de me dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye pour rien.
En apprenant sa condamnation à 30 ans de prison, Jean-Michel Bissonnet s'effondre, puis s'écrie « Justice de merde ». Méziane Belkacem est condamnée à 20 ans et Amaury Darcourt à 8 ans de prison. Voilà, le rideau tombe avec ses peines lourdes, qui pour autant n'apportent toujours pas de réponse à la question qui hante ce dossier. Pourquoi a-t-on tué Bernadette Bissonnet ?
On change de cavalier, on change de partenaire, mais on ne sait plus danser que comme des solitaires. On nous sent à plein nez, ça se voit à notre air qu'on est un peu paumé, qu'on est célibataire. Qui nous aime ici-bas, ici même? Qui nous aime, qui nous lave de nos peines? Qui nous aime ici-bas, ici même? Penser, on retourne tous nos travers. Qu'est-ce qui peut clocher? Qu'est-ce qu'on ne sait plus faire? On n'ose plus s'approcher trop près de la lumière pour ne pas faire remarquer qu'on est solitaire. Qui nous aime ici-bas, ici même? Qui nous aime, qui nous lave de nos peines? Aime, ici-bas, ici même. On est vraiment un peu largué, on n'a plus les repères pour se faire consoler de ce qu'on avait dans le cœur hier. On ne veut pas pleurer, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus embrasser que des courants d'air. Ici-bas, ici même, qui nous lave quand on saigne? Qui nous aime ici-bas, ici même?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Bissonnet. Notre invité, François Barrère. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions judiciaires au Midi Libre. Vous nous appelez de Montpellier, plutôt c'est nous qui vous appelons. Vous avez couvert toute cette affaire Bissonnet. Alors puisque c'est un crime sans mobile, il est légitime pour tout un chacun de se demander si vraiment Bissonnet est coupable. Et puis nous ne sommes pas jurés dans cette affaire, c'est donc sans risque. Quelle est votre conviction intime, vous ?
Ma conviction intime, elle rejoint forcément celle des jurés de l'Hérault et de l'Aude qui ont eu du temps pour examiner cette affaire en détail et qui ont rendu à chaque fois une décision qui va dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru à l'innocence de Jean-Michel Bissonnet. Mmh.
Mais alors cette absence de mobile, elle reste troublante parce qu'on a beau faire la liste des hypothèses qui auraient pu mener à ce crime, on n'en trouve aucune qui tient vraiment debout.
On est face à un crime conjugal, même si c'est pas le mari qui a directement assassiné sa femme. Il est accusé, il a été reconnu coupable d'avoir organisé ce crime. Donc je pense que les raisons de son passage à l'acte sont à chercher dans les relations du couple, forcément. Mmh. Et là, on a en quelque sorte deux versions, parce que Jean-Michel Bissonnet passe son temps à clamer que c'était le bonheur parfait avec Bernadette. Et en même temps, il y a toute une série de petits points, alors qui peuvent paraître totalement dérisoires, mais qui indiquent que c'était peut-être pas un bonheur aussi épanoui et que lui avait peut-être envie d'autre chose. Il était à l'âge de la retraite et bon, Bernadette, c'était une femme très tonique, très dynamique, qui surveillait sa ligne, qui lui donnait plutôt, enfin, qui l'empêchait peut-être d'aller faire quelques excès avec ses copains au restaurant, qui aimait pas trop cet ami un peu sulfureux, Amaury d'Harcourt, là, qui venait régulièrement. Donc, il y a des petits détails comme ça qui montrent que Jean-Michel Bissonnet se sentait peut-être quand même un peu prisonnier de ce carcan doré. Et qu'il a peut-être décidé de faire disparaître sa femme. On est face à un homme qui a peut-être pas eu le courage d'initier ce qui peut arriver dans des tas de couples.
Une séparation, quoi.
Une séparation, une procédure de divorce. Il a peut-être pas eu le courage et il faut comprendre aussi que c'est un homme qui est extrêmement attaché au côté matériel et que sa maison était pour lui sans doute ce qui lui tenait le plus à cœur. On est frappé. Moi, je me rappelle de l'un des avocats qui décrivait le jardin de la maison de Jean-Michel Bissonnet. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle de Méziane comme le jardinier, mais effectivement, c'était pas Méziane Belkacem, le jardinier des Bissonnet. C'était Jean-Michel Bissonnet, le jardinier. Mmh. Et l'un des avocats disait, mais ce jardin, c'est à la pince à épiler. Donc c'est, voilà, il était extrêmement attaché à sa maison. Et s'il avait initié une procédure de divorce, il aurait dû quitter cette maison. Et donc il aurait perdu, et puis il aurait été aussi, il aurait incarné dans toute la famille celui qui déclenche le malheur. Alors que si on vient lui tuer sa femme chez lui, il devient le veuf éploré que tout le monde va soutenir, aimer et encourager. Et donc je pense que c'est dans ses ressorts psychologiques et dans leur relation de couple que se trouve véritablement le mobile du crime.
Oui. Très, très certainement, effectivement. Alors, il avait été placé Bissonnet sous écoute téléphonique judiciaire, et je crois que lors d'une conversation avec une de ses cousines, il a dit de sa femme, c'était quand même une sacrée emmerdeuse.
Oui, voilà, il y a toutes sortes de petits signes comme ça qui montrent que il y avait la façade, mais il y avait pas non plus. On n'est pas dans un couple qui est en guerre ouverte. On est plutôt dans une espèce de routine qui lui pèse, et il a envie. Il a sans doute aussi envie d'autre chose. Alors, les enquêteurs ont découvert qu'il s'était inscrit sur des sites de rencontres où il n'a pas été plus loin que juste créer un profil où il expliquait qu'il avait envie de pimenter sa vie. Donc ça aussi, c'est quand même des petits signes qui montrent qu'il était sans doute insatisfait dans cette vie, ce mariage. Ouais. Voilà.
Ouais. Alors, vous avez suivi toute cette affaire, on l'a dit, et depuis le début, quels ont été les événements qui vous ont le plus marqué dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous a paru le plus intéressant?
C'est difficile, parce qu'en fait, l'affaire Bissonnet, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des affaires judiciaires qui coulent de source, et là, on est face à une espèce de torrent impétueux qui déferle d'audience en audience, de coups de théâtre en rebondissement. et le moteur de toute cette effervescence, c'est Jean-Michel Bissonnet, avec sa personnalité si particulière. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a des sanglots dans la voix, mais c'est un homme qui d'une fraction de seconde à l'autre peut se mettre à pleurer et puis se lamenter, et puis ensuite entrer dans une colère noire avec une haine, et se mettre à hurler au complot des gendarmes, le complot des juges, le complot des journalistes. Donc on est face à une personnalité qui est assez fascinante quand on le voit et quand on l'entend au cours d'un procès, parce que c'est un spectacle permanent. Donc effectivement il y a toutes sortes de détails et il y a des tas de détails qui se sont passés en fait en dehors de l'audience aussi qui dressent un portrait totalement incroyable. Le jour où il va commander les fleurs pour les obsèques de son épouse, il va dire à la jardinerie où il est, mais je vais en profiter, tant que je suis là, je vais en profiter pour acheter des arbres pour le jardin.
Oui.
Ça interpelle. Il y a ce témoignage du gendarme qui raconte que lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, il y avait le corps ensanglanté de Bernadette, qui avait, le détail est terrible, mais elle avait les yeux ouverts. Donc la scène est épouvantable, et donc le gendarme, par décence, veut prendre un moment un plaid qui est sur le canapé pour le poser sur le corps de la victime, et Jean-Michel Bissonnet intervient pour dire « Ah non, ça sort juste du pressing, on en a eu pour 100 euros, ou quelque chose comme ça. » Donc des réactions qui paraissent absolument ahurissantes et qui forcément mettent la puce à l'oreille. Il y a ce balancement permanent entre la douleur affichée et des préoccupations matérielles extrêmement
prosaïques et précises, voilà, et pas à la hauteur du drame, quoi. C'est
absolument absolument.
Ah oui, c'est assez éclairant. François Barrère, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Tamino, Fascination.
I like the colors reflected in your eyes when you look up to the sky. To me, they don't seem to appear, and I didn't cry for that flamingo stuck in song. Didn't care for it at all, while you couldn't hold your tears. Your fascination has always fascinated me. You make it harder to believe that I was ever. Know where I belong, and you can't prove me wrong. No. Those modest sayings that mean so much to you, with me, they've never gotten through. I've always needed bigger words, but none of your colors can be found within the lines of the pages I made mine. We'll be right back.
François Barrère, dans cette affaire Bissonnet, on a beaucoup parlé ensemble de Bissonnet. Belkacem, on en a parlé dans le récit. Après tout, son profil est assez simple. Donc, je voudrais qu'on s'attarde sur le troisième personnage, Amaury d'Harcourt, dont j'ai lu un portrait dans la presse de vous, je pense, où il est présenté comme un bonhomme plutôt désinvolte, cynique, un jouisseur, amateur de femmes. Enfin, quelqu'un de pas très sérieux, non pas parce qu'il est amateur de femmes, mais pour les autres raisons, qui paraît pas très sérieux. Il est très bizarre. Dites-nous en plus sur lui.
Amaury d'Harcourt, c'est un personnage de roman absolument incroyable, à la fois attachant et énervant. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer longuement avant les audiences. C'est un homme, alors, il est descendant de l'une des plus anciennes familles de l'aristocratie française. Il a été très jeune, il a été élevé dans l'Yonne, dans une espèce de château, où pendant la guerre, il était adolescent, il jouait du cor de chasse, parce que les occupants allemands aimaient bien qu'il vienne jouer du cor de chasse, et ensuite il en profitait, comme il parlait allemand, pour écouter toutes leurs conversations et rapporter ça à la résistance. Il s'est engagé dans le 11e choc au moment de la libération, il a été blessé, donc c'est un homme courageux, qui a un côté un peu tête brûlée aussi, fonceur. Ensuite il est parti en Afrique, où il a eu des tas d'aventures et aussi, c'est un homme évidemment, un homme à femme, un grand séducteur. Moi, je me rappelle encore qu'il avait une expression extatique sur son visage lorsqu'il me racontait qu'il avait un jour, lorsqu'il était perdu dans le désert libyen, rencontré Kadhafi et il était visiblement, il avait gardé un souvenir émerveillé de la fameuse garde féminine qui entourait Kadhafi, qu'on appelait les Amazones. Donc
oui,
c'est un type qui a eu mille vies en une et qui quelque part, au moment où il se retrouve impliqué dans cette affaire criminelle, va vivre le fait de se retrouver incarcéré comme l'une des nouvelles
expériences de vie.
Expérience de plus, voilà. À 84 ans, il va découvrir la prison. Ce qui est fascinant, c'est qu'il va être incarcéré au quartier, ce qu'on appelle le quartier VIP de la santé. À cette époque, il y a un commissaire de police français célèbre de la PJ qui avait été incarcéré. Il a comme voisin Carlos, le terroriste. Il y a aussi à ce moment-là le général Noriega, qui avait été du Panama, qui avait été donc à un moment incarcéré en France pour des questions de procédure. Et comme Amaury d'Harcourt, il adore faire la cuisine chez lui, alors il demande aux surveillants s'il peut faire la cuisine pour tout le monde. On lui dit non, c'est pas possible. Et alors il va leur demander, mais est-ce qu'on peut prendre le thé ensemble? Et alors les surveillants vont dire oui, parce que bon, c'est un quartier où on peut un peu ouvrir les cellules. Et donc il faut s'imaginer que voilà, cet aristocrate prenant le thé au quartier VIP de la santé avec le général Noriega et avec Carlos le terroriste, est en train de parler de quoi? Ben peut-être des femmes de leur vie, voilà. On est face à un personnage absolument absolument extraordinaire et qui a aussi une espèce de détachement qui peut être exécrable par rapport notamment
à
sa participation à ce crime, hein, parce qu'il il reste très très au-dessus de tout ça finalement, quoi, sans donner non plus des explications très claires. Hein. Il a toujours beaucoup varié sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais incontestablement, il a participé très activement.
Et pourquoi il aurait participé? On sait, par amitié,
par amitié, avoir un peu d'argent. Par amitié, il va dire à l'audience notamment que Jean-Michel Bissonnet, pour lui, c'est un peu le fils qu'il aurait toujours rêvé d'avoir. Et donc voilà, il avait un lien très fort entre ces deux hommes malgré leur différence d'âge. Ils s'étaient rencontrés dans les années 70, à l'époque où Amaury d'Harcourt fournissait du gibier donc aux chasses présidentielles, et où Jean-Michel Bissonnet était un jeune homme qui était arrivé et qui travaillait à Paris à cette époque-là.
Alors il y a un épisode aussi qui interpelle, c'est celui du sondage. C'est quand même assez révélateur de l'impact de cette affaire sur la population de Montpellier. La ville était un peu retournée donc par cette affaire-là. Et puis ce sondage, comment ça s'est passé? Est-ce que les gens ont répondu? Qu'ont-ils répondu?
Alors le sondage, il faut peut-être en diminuer un peu l'impact. Ça a été un des multiples actes qu'a tenté la défense de Jean-Michel Bissonnet, comme on l'a expliqué dans votre sujet. C'était pour dire, voilà, on nous reproche qu'on nous refuse sa libération parce qu'on nous dit que ça troublerait l'ordre public. Mais on va demander à l'opinion publique ce qu'elle en pense. Après, c'est un sondage qui a été fait sur un échantillon assez réduit. Je crois il y avait 500 personnes, donc la fiabilité de tout ça est assez limitée. Ça montre quand même ce qui a beaucoup divisé l'opinion publique à Montpellier, je pense, et puis également clivé totalement la justice, c'est que On était face à un homme qui se servait énormément de son argent et de son influence pour essayer de trouver de toutes les manières une façon de s'en sortir, de se sortir du piège dans lequel il s'était lui-même enfermé. Et ça, ça a été vécu comme étant assez odieux par beaucoup de monde aussi à Montpellier, qui se disait mais c'est pas parce que cet homme est riche qu'il a les moyens d'échapper à sa responsabilité pénale et à la justice.
Alors, au cœur du procès, il y a eu ce qu'on peut appeler un coup de théâtre, hein, ce faux témoignage du détenu. Quelle réaction ça a provoqué dans le prétoire, cette affaire-là ?
Alors ça fait partie des grands moments qu'on peut vivre dans quand on suit des procès. C'est ces moments d'audience où le moindre, ça renvoie au rang d'aimable plaisanterie, le plus grand film hollywoodien, parce il y a une intensité dramatique absolue. Tout d'un coup, vous voyez les avocats généraux qui commencent à distribuer des papiers à tout le monde en disant, il faut absolument que vous lisiez ça, le procès peut pas continuer comme ça. Et effectivement, une heure après, on se retrouve avec un procès qui s'arrête, des avocats qui disent, on peut pas continuer la défense dans ces conditions, tout est renvoyé. Tout ça après des audiences extrêmement lourdes. On était au cinquième jour du procès. La veille, l'audience était terminée à minuit, donc tout le monde est épuisé. Et en même temps, on se retrouve avec une espèce de bombe qui explose en pleine audience. C'est absolument incroyable.
Ouais. Alors au final, la question du mobile n'est toujours pas résolue. On en a parlé également. Ne dit-on pas que le doute doit profiter à l'accusé ? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des réactions qui allaient dans ce sens d'indignation par rapport à la condamnation dès lors qu'il n'y a pas de mobile ?
En dehors du petit cercle du comité de soutien qui s'était créé autour du Rotary, et puis forcément de la famille, parce que pour les enfants de Jean-Michel et de Bernadette Bissonnet, ils sont pris dans un conflit de loyauté absolument terrible. Leur père clame leur innocence, il est en prison, en même temps leur mère a été assassinée. C'est effectivement difficile on comprend que ça soit difficile de se positionner. Moi, après, j'ai pas eu le sentiment que les protestations d'innocence de Jean-Michel Bissonnet aient eu beaucoup plus d'écho que ça dans la population générale, parce que on a quand même toute une série d'indices qui étaient là, et puis ce fait incontournable qui est qu'entre le jardinier et puis le vicomte, ces deux personnes n'avaient jamais eu le moindre lien entre eux, ils n'avaient aucune raison de se rencontrer. Leur seul point commun, c'est qu'ils connaissaient tous les deux Jean-Michel Bissonnet.
Alors, il y a eu un procès, ils ont fait appel, il y a donc un procès en deuxième instance. Les peines ont été réduites, hein, je crois, de 30 ans à 20 ans, c'est ça
La peine de Jean-Michel Bissonnet a été réduite effectivement de 30 ans à 20 ans. Le Méziane Belkacem a été condamné à 20 ans comme la première fois. Et Amaury Darcourt, qui cette fois-ci comparaissait détenu, puisqu'au premier procès il était libre, a été effectivement à nouveau condamné à 8 ans de réclusion criminelle.
Bien. Est-ce que le deuxième procès est très différent? Le comportement de Bissonnet, par exemple, et on finira là-dessus parce qu'il nous reste une minute.
Il est apparu un peu plus humain, il a été, on va dire, un peu moins odieux, un peu moins exécrable. Et puis il y a eu ce moment étonnant où son avocat, Jean-Yves Liénard, alors qu'il défendait l'innocence de son client, a quand même fait une plaidoirie en disant « et si jamais c'était lui ?» et en essayant d'expliquer ce qui avait pu le pousser à commettre ce crime. Et à ce moment-là, Jean-Michel Bissonnet s'est mis à pleurer et ça a été un moment d'audience très fort.
Oui, parce qu'il était plutôt arrogant jusque-là.
Ouais, mais au deuxième procès, il avait un peu baissé la voix quand même.
Pierre, une toute petite question, une toute petite réponse. Vous avez couvert plusieurs procès et affaires. Celle-là reste parmi les affaires marquantes que vous avez couvertes.
Forcément, ça reste une affaire qui a marqué Montpellier, je pense, de façon définitive. Et la preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui, près de 15 ans après.
Oui, c'est vrai. C'est aussi notre vocation, nous, de parler des événements passés pour en voir les résonances. Merci à France Bleu Héros de vous avoir accueilli dans ces studios. Merci François Barrère. Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Bissonnet. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.